L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35. Alors, en 1547, Saint-Benoît édicte une règle.
Oui.
On en parle pendant un moment, mais alors au 19e siècle, c'est Saint-Benoît comme Bach.
Oui, tout à fait. Tout d'abord, bonjour mon cher, à toi, à tous les gens de la radio, et à tous ceux qui nous écoutent, ou qui ont la patience et la gentillesse de m'écouter. Bon, alors effectivement, lorsque en 1547, le jeune Benoît de Nursie, avec un C ou un S, il y a différentes orthographes, édicte sa règle, il le fait dans sa langue originelle, qui était du vieil italien du 6e siècle. Bon, il faut dire que le document originel a disparu lors d'un gigantesque incendie qui a eu lieu en 896 et qui avait ravagé complètement le monastère de Monte Cassino en Italie, où cette règle avait été édictée. Seulement voilà, il y a eu un autre document absolument similaire qui s'est intitulé « La règle du maître ». Et il a été rédigé au cours du premier quart, on pense, du 6e siècle, sans doute à Rome. Alors, était-il de Saint-Benoît ou d'un autre? Bon, là, toujours est-il que Saint-Benoît vraiment l'a ratifié. Alors, cela nous donne un document très fiable pour saisir l'esprit de la règle d'origine écrite par Saint-Benoît. Tellement que pendant une longue période, jusqu'au début du XXe siècle, on a cru que c'était là la version originale, cette règle intitulée « La règle du maître ». Bon, et il a fallu le travail gigantesque de l'abbé Don Prosper Béranger, abbé de Solesmes, qui a vécu entre 1805 et 1875 et qui a fait un travail de restauration de cette règle de Saint-Benoît en partant d'une traduction très savante et très approfondie du vieux texte du début du 6e siècle. Alors, c'est à l'heure actuelle, cette édition revue et corrigée ou représenté par Don Prosper Béranger, abbé de Solesmes, qui fait la règle de vie actuellement des monastères bénédictins. Alors, la règle proprement dite commence par un prologue. La règle édictée par Saint-Benoît contient pas moins de 73 chapitres concernant chacun des moindres aspects de la vie courante des moines et des problèmes pouvant se poser tant aux individus qu'à la communauté dans son ensemble. Alors par exemple, ils sont rejetés complètement ce qu'on appelait les sarabaïtes. Alors les sarabaïtes, le mot est un peu compliqué, hein, il s'agit des moines qui, dans les temps anciens, vivaient sans aucune clôture, ni règle, ni supérieur religieux, rien. Et parfois, ils vivaient en groupe. Alors, déjà, Saint Jean Cassien, vers 360 à 435, et Saint Benoît de Nursie, les condamnaient pour leur genre de vie, qui, selon eux, n'avait rien à voir avec un authentique érémitisme, dont ils n'avaient que de lointaines apparences, allant même, selon eux, selon Jean Cassien et Saint Benoît, jusqu'à trahir cet idéal. Bon, beaucoup d'historiens, dont personnellement je suis, se posent une question, est-ce que cela était toujours vrai? Parce que Saint Jean Cassien et Saint Benoît de Nursie ne sont pas non plus exempts d'une certaine sévérité. Hein. Parfois, allant même, oui, on peut dire, jusqu'à la dureté. Bon, est-ce qu'ils ne se sont pas laissés aller et emportés par une relative exaltation ? La chose ne paraît pas du tout impossible, car leur seul témoignage ne suffit pas pour en juger, et l'historien moderne manque complètement et cruellement de documents sérieux pour juger sereinement et objectivement de la chose. Hein ? Il faut éviter l'espèce de cloisonnement qui fait qu'il y a une pensée unique. Non. Alors, de fait, de nombreux saints ermites ont vécu absolument seuls en des lieux sauvages et reculés, dont le souvenir n'est plus reculé et plus conservé à l'heure actuelle que dans des légendes ou de très anciennes traditions orales, traditions souvent mêlées à d'autres, encore plus anciennes, relatives à des héros oubliés ou bien mythologisés, voire divinisés par la suite dans la mémoire populaire. Pour en revenir à la règle, donc de Benoît de Nursy, édictée vers 547, elle évoque de nombreuses autres directives sur ce que doit être l'abbé. Par exemple, l'abbé c'est le supérieur du monastère. Hein. Par exemple, le chapitre 4 est particulièrement important parce qu'il porte sur, alors là je cite le titre, les instruments des bonnes œuvres, c'est-à-dire ce que doit faire le moine pour mener une sainte vie. Ce chapitre ne comporte pas moins que 78 articles nécessaires pour cela. Ben, si vous vous rendez compte, 78 articles en un chapitre. Alors, de quoi s'agit-il ? Essentiellement de l'obéissance, du silence, de l'humilité, du travail, de la liturgie, du temps de travail ou du repos, des outils et des meubles des monastères, des divers cas des excommuniés, et oui, et des rapports à avoir avec eux.
Mais il va même jusqu'aux modalités des repas, de l'habillement.
Tout à fait. Tout est réglé là. Tout est réglé. Alors justement, j'allais dire, avec en rapport.
Est-ce que c'est de là que vient l'adverbe benoîtement ? Non.
C'est un peu poussé. Hein.
Ah bon ?
Bon, mais pourquoi pas ? Bon. Alors d'autres questions sont abordées. Comme celui, alors ça c'est typique pour notre époque, c'est très très fort, des rapports éventuels à avoir avec des enfants en bas âge, ou de savoir si les moines peuvent avoir quelque chose en particulier, je veux dire un bien privé, ou s'ils doivent le mettre en commun. Bien encore, les soins donnés aux malades et aux pauvres de passage. L'accompagnement spirituel des pauvres et des visiteurs, les travaux manuels et intellectuels, le temps de jeûne, les carêmes, etc., la réception des autres et autres visiteurs, et même l'accueil des moines étrangers d'un autre ordre, des prieurs, des portiers, des monastères, etc. Bon, vous voyez, un travail énorme qui a été fait. Alors, très détaillé, cette règle était d'autant plus détaillée que cela était nécessaire vu la grande complexité des codes juridiques mérovingiens et plus tard carolingiens et médiévaux. Alors il fallait pour cela créer un véritable monachisme occidental répondant aux aspirations des occidentaux tout en conservant l'esprit des anciens moines d'Orient. Et à ce sujet, les saints Jean Cassien et saint Benoît relevèrent un véritable pari. Parce que la culture occidentale n'est pas la culture orientale. Et passer de l'un à l'autre, garder l'idéal de l'un et l'adapter à l'autre, c'est une véritable gageure. Alors un autre a marché d'ailleurs dans cette même orientation, c'est Saint Colomban. Saint Colomban qui était venu du monastère de Bangor, en Ulster, donc au nord de l'Irlande, dont la capitale est Belfast, et qui a débarqué en Gaule vers 590. L'Irlande, je ne perds pas de vue la règle de Benoît. Vous allez voir, l'Irlande...
On va faire le détour par Augustin de Canterbury, non ?
Non, pas encore, ça viendra. Alors l'Irlande a été convertie au christianisme par les moines, et en particulier par Saint Patrick ou Patrice. Ce dernier était fils d'une parente de Saint Martin de Tours. Il a étudié à Marmoutier, puis à Lérins, alors Jean Cassien, etc., puis est parti en Irlande, dont il a commencé la conversion. Il décède en 465, et à cette date, quasiment toute l'Irlande est convertie au christianisme. Bon, alors, conversion à un christianisme qui resta quand même très empreint des vieilles religions déjà présentes en Irlande, qui vont pénétrer ce christianisme nouveau irlandais. Nous verrons par la suite, justement, les conséquences culturelles, religieuses et liturgiques que cela donnera sur le christianisme irlandais. Les premiers moines irlandais furent surtout des nomades. Et l'un d'eux, notre Saint Colomban, qui a débarqué en Gaule vers 590 et qui y a missionné, a donc apporté une culture irlandaise à l'église de Gaule, d'où d'ailleurs ses interférences avec l'église celtique. Hein. Bon, alors, régnait alors le roi Childebert II, qui était roi de 570 à 595, et était roi d'Austrasie. Quand on parle de l'Austrasie, de quoi parle-t-on ? La région du nord-est de la France, qui englobait en partie un morceau de la Belgique et de l'ouest de l'Allemagne. Ce royaume pouvait être considéré comme mérovingien entre 561 et 751. Puis il a été roi de Bourgogne et d'Orléans. Alors, Childebert II, fils de Sigebert Ier, lui-même roi d'Austrasie, et de la reine Bruno. Voilà donc Childebert II, roi de la dynastie mérovingienne. Or, sous la royauté mérovingienne, le pouvoir législatif était aux seules mains du roi. Le roi disposait de tout pouvoir. Ainsi, par exemple, tous les codes, qu'à l'heure actuelle les historiens appellent codes barbares, comprenaient diverses lois comme la loi salique, la loi des ripuaires. Alors, le terme de ripuaire, aujourd'hui, est un petit peu flou. Hein. De quoi s'agissait-il ? Il s'agissait des francs ripuaires, qui habitaient la région du Rhin, et qui étaient établis sur les rives du Rhin et de la Moselle, ainsi que d'autres codes des droits coutumiers et régionaux. Donc, voilà, le code salique, le code ripuaire, le code coutumier, tout cela est soumis à la seule autorité du diktat royal.
Donc, il va y avoir de l'eau dans le gaz, j'en suis sûr, je vous propose une petite pause qui vous permettra d'évacuer le chat que vous avez dans la gorge.
Merci bien, mon cher.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et il y a de la joie. Le percepteur met sa jaquette plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, fini la quête, gardez tout, messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Et je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout il y a de la... Tout le jour mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout il y a de la joie.
Si vous en êtes d'accord, Bernard Vacherot, c'est Charles Trenet qui nous aérera dans les prochaines émissions.
Super.
On en était à Saint-Colomban qui débarque, hein, de son Irlande natale, dans un royaume mérovingien encore influencé par les Visigoths, si je ne m'abuse. Et il se mêle un peu de politique, le garçon.
Et il est obligé du fait que ce sont les conditions de vie de l'époque qui l'y obligent, hein.
Ne lui cherchez pas des excuses.
Non,
ne cherchais pas à l'accuser non plus.
Non, mais je m'en doute bien. Hein. Non, mais justement, bon, au fond, personne ne peut dire je me désintéresse de la politique. C'est trop facile. C'est trop facile à dire ça. C'est un côté intellectuellement un peu lâche d'ailleurs. Hein. Bon, parce que c'est facile de dire je me désintéresse. Qu'est-ce que la politique? C'est la vie publique. Si je me désintéresse des autres, quel est mon message chrétien? C'est pas possible, hein? Donc, pour en revenir à notre règle de Saint-Benoît, j'ai dit qu'il y avait un prologue. L'habitude de faire commencer l'édiction de règles par des prologues était une habitude assez courante au 7e siècle, par exemple, 6e, 7e siècle. Bon, il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres prologues de lois, par exemple, dans le code législatif, et surtout dans le code, on va dire, mérovingien, les codes mérovingiens. Alors, cela a la même, cette liberté qu'avaient les rois de faire n'importe quoi avec les codes, de faire ce qu'ils veulent, jusqu'à permettre au roi de modifier le droit coutumier selon sa seule volonté. Même si, théoriquement, cette loi avait été initialement promulguée par les volontés du peuple. Alors, la promulgation officielle se faisait au cours des assemblées publiques. Avec discrétion, les rois mérovingiens ont progressivement changé les dispositions de ces lois selon leur volonté, peut-être plus que selon leurs besoins réels, après en avoir, soi-disant, pris l'avis des représentants du peuple et de l'Église. Quant au pouvoir judiciaire, le roi mérovingien conserve le haut pouvoir sur lui, car il s'auto-qualifie et s'auto-programme lui-même de juge suprême, c'est son expression. Au besoin, il s'abroge même le droit absolu de modifier code et loi comme il l'entend. Alors, au regard de la législation mérovingienne, cette espèce de pouvoir absolu et total n'apportant pas de base réellement constitutionnelle. Et il ne repose sur aucun principe supérieur. La chose publique est celle du seul roi. Bon. Là, on entre, voyez, dans quelque chose de très grave, parce qu'alors, le peuple est entièrement soumis à la seule volonté du roi. On va pas dire « Roma locuta est, Rome a parlé », on va dire « Rex locuta est, le roi a parlé ». Point, c'est tout. Bon. Alors, dans cette optique, on voit apparaître au cours du 7e siècle une institution qui s'appelle celle les maires du palais, qui a été agrégée par les optimates qui résidaient habituellement au palais, d'où le nom de maires du palais. Alors, à partir des 7 et 8e siècles, les maires du palais prennent petit à petit du pouvoir, commencent à désigner les rois, ce qui font que les maires du palais deviennent à leur tour des presque rois et leur confèrent une autorité quasi souveraine sur le royaume, même au plan législatif. Alors, le premier maire du palais à exercer ainsi ses fonctions a été un certain Ébrahim de Neustrie, la Neustrie qui comprenait la Loire, la Bretagne, la Manche et la Meuse, fonction qu'il occupa durant tout le règne du roi Clotaire III, entre 657 et 673. Le législatif, l'appareil législatif royal, était soutenu par une chancellerie composée d'hommes de loi, comme des notaires royaux, qui eurent eux aussi, dès le 8e siècle, part au gouvernement du royaume et à l'édiction des ordres royaux, tels qu'ils étaient appelés préceptum, c'est-à-dire termes s'appliquant au texte législatif et constitutionnel. Alors bien sûr, pour être considérés comme valides, ces textes devaient porter la signature royale et le sceau.
Alors là, vous nous mettez un suspense.
Oui.
Qu'on va être obligé
de couper,
parce que la prochaine fois, on va commencer, bien entendu, par ce rapport entre les maires du palais et les rois. Merci Bernard Vacherot.
Et saluons Étienne Marcel, au passage.
Oui, tiens, salut Étienne, salut Marcel. Merci Bernard. L'histoire des religions. La genèse du monachisme par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.